votre source d'information le matin. Voici Catherine Gaudreau. Que la Mauricie se lève. Au 106.9 Mauricie.
À 8h36, excellent début de journée, bon mardi. Plusieurs questions en lien avec cet accident qui s'est déroulé à la résidence Miozetis. On vous a placé des photos. Merci encore à Carl, un auditeur, qui nous a envoyé des photos de l'accident. On voit très bien le véhicule là, qui est carrément encastré dans la porte d'entrée. Alors tout ça vous est placé sur notre page Facebook FM 106.9. C'est le moment d'aller rejoindre Léa Strelitzky qui veut revenir entre autres sur le dossier de Marie-Pierre Morin. Et on aborde un sujet tabou. Je vais la laisser vous adresser cette question-là. Salut Léa! Bon, Léa, dis-moi, donc on revient sur Marie-Pierre Morin, mais sous l'angle du pouvoir de la beauté des femmes. Explique-toi.
Oui, ben j'ai regardé l'entrevue un peu comme tout le monde en parle. Ouais. Puis j'ai trouvé que Anaïs Favron posait des très bonnes questions pendant l'entrevue et elle semblait un peu choquée comme beaucoup de monde. Du fait que Marie-Pierre Morin avait pas plus conscience de à quel point elle était déplacée. Et évidemment, on peut mettre tout ça sur le dos de l'alcool, même si l'alcool a parfois le dos un peu large. Mais je trouve que ce dont on parle pas assez, c'est à quel point Marie-Pierre Morin est une belle femme. Okay? Et il y a quelque chose qui est très tabou dans notre société. La beauté des femmes, c'est quelque chose dont on parle pas tant, autant les hommes que les femmes. Mais sincèrement, c'est un pouvoir qui est démesuré. Ok, c'est un privilège qui est démesuré en fait, et on est gêné de le dire. Mais pour moi, Marie-Pierre Morin, non seulement peut-être qu'elle a des problèmes d'alcool, donc c'est sûr que ça lui faisait faire des affaires un peu complètement déplacées, mais aussi c'est que je pense qu'elle avait ce sentiment qu'elle pouvait tout faire, et c'est ce qu'elle a expliqué. Qu'elle avait ce sentiment une fois qu'elle était sur le party qu'elle pouvait tout faire, mais elle semble pas assez consciente de à quel point, puis comme société on n'est pas conscient non plus à quel point une belle femme de même qui est jeune, qui est célèbre et qui a de l'argent, c'est l'équivalent de ce qu'on a connu avec des hommes qui sont au pouvoir depuis longtemps et qui ont beaucoup d'argent, ok? Sincèrement, c'est la même chose. Fait que cette espèce de sentiment de tout est à moi, là, c'est ça dont on parle pas.
Mais okay. Mais donc toi tu ajoutes parce que l'aspect c'est pouvoir être riche et d'avoir justement l'impression que rien ne t'atteint, t'es au-dessus de tout ça. Toi tu ajoutes la beauté féminine.
Oui. Okay. Oui, parce que on n'en parle pas de ça. Puis on parle pas de comment il y a des filles qui pensent que tout est permis, en fait. Parce que les gens les traitent comme si tout était permis, en fait. T'as accès à des choses auxquelles les femmes qui sont considérées moins belles n'ont pas accès. Puis ça te donne vraiment une espèce de sentiment de un super pouvoir, en fait. Puis je trouve que c'est l'angle mort ici, puis on doit un petit peu s'en parler parce que ces femmes qui ont ce privilège-là doivent en être conscients. Puis je trouve qu'on... c'est là où je ne sais pas à quel point elle est consciente de ça. Puis quelque part, ça me faisait un peu l'effet, quand je la regardais, ça me faisait un petit peu l'effet de... Elle pense encore que tout lui est permis, je pense.
Encore aujourd'hui? Est-ce que je comprends que tu ne l'as pas cru dans ses aveux ou je cherche le bon mot, mais donc tu n'es pas convaincue de son repenti?
Mais c'est juste que quand ton arme principale, c'est la séduction, c'est une arme, je pense que tu n'es même pas consciente à quel point il y a énormément de tes décisions qui continuent à être prise pour plaire. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je dis pas du tout que Marie-Pierre, elle a complètement le droit à l'erreur comme nous tous, puis je l'aime pas vraiment ce tribunal populaire, là. C'est-à-dire que j'ai beaucoup, beaucoup de malaise dans tout ce dossier-là, autant pour les victimes que pour elle, que pour le fait qu'on est obligé de parler de ça puis de décortiquer la vie de quelqu'un. C'est bizarre, tu sais. C'est nouveau comme phénomène puis c'est bizarre. Je dis pas que je la crois pas, je dis juste que sincèrement, c'est beaucoup plus long que ça, se comprendre, être conscient de ses travers, puis je trouve ça tôt, tu sais,
OK. Dis-moi, il y a aussi l'aspect qui est ressorti beaucoup cette semaine, parce que, bon, dans la colonie artistique, il y a plusieurs actrices, il y a eu quelques acteurs, mais beaucoup des femmes qui sont sorties, qui étaient insatisfaites qu'elles soient en nomination, notamment aux artistes, au gala artiste. Bon, on le sait qu'elle s'est retirée de ça, mais je te pose la question, Est-ce que ça se peut que dans certains cas, il y a des femmes qui soient jalouses de Marie-Pierre, de sa beauté notamment, et du fait que le public la suit encore, le fait de la nommer au gala artiste. Est-ce qu'il y a ça, selon toi, derrière...
Oui. Mais c'est pas juste ça. Mais c'est sûr qu'il y a ça dans le chaudron aussi. Là. Comme je te dis, il y a énormément de choses dans le chaudron.
Oui, c'est très... oui, c'est vrai.
Il y a beaucoup de malaise. Puis c'est sûr que je pense que dans le showbiz, à un moment donné, quand toi, t'as pas agressé du monde ou t'as pas été raciste, ou ben c'est sûr que ça doit t'énerver que quelqu'un d'autre qui est toxique au travail continue d'avoir des prix ou d'être valorisé par le public, tu sais. C'est sûr que tout ça est très complexe, puis je maintiens mon malaise. Je suis mal à l'aise sur toute la ligne dans cette affaire-là.
Ouais, mais je vais te partager quelque chose que j'ai vécu à l'époque. Ça fait plusieurs années. J'avais une patronne qui était féminine et je m'étais rendu compte, parce que tu parles de la beauté, je m'étais rendu compte que cette femme-là était plus mesquine, plus exigeante et plus injuste envers les belles filles. Quand la fille était très belle, avec cette personne-là, elle partait avec deux prises.
C'est sûr. Ça, c'est un autre dossier. Après, il y a la rivalité féminine.
Il y a ça aussi,
qu'on parle de tabou. My God, ça, c'est l'autre affaire dont personne ne parle.
C'est vrai.
Les féministes en parlent moins de la rivalité féminine.
Pourtant,
on parle pas de la rivalité.
Puis pourtant, sais-tu quoi? On a besoin d'en parler parce que ça existe, Léa.
Oh, mon Dieu, que ça existe. Mais tu sais, je veux dire, si on se met à parler de la toxicité féminine, parce que c'est sûr que notre société est en train de regarder beaucoup la toxicité masculine, et à juste titre, parce que il y a un niveau de violence puis de pouvoir chez les hommes qui est très malsain. Mais attends, là, je veux dire, nous, on a le beau rôle, là, pendant que la lumière est sur les gars, nous, on est comme là, 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 tout est parfait dans notre monde à nous. Mais pas vraiment, là. Je veux dire, on n'est pas. L'égalité, c'est que quelque part, les deux sexes, c'est leur travers. Fait que la rivalité féminine, les relations mère-fille, le pouvoir de la beauté, on pourrait s'en parler des heures.
Tout à fait. Mais c'est-tu quoi? Mais je trouve ça fort intéressant. Puis le fait qu'on est deux femmes aussi, je vais me permettre de te poser une question qui est personnelle. Parce que Léa, t'es une très belle femme. Tu es très belle. Est-ce que ça t'a soit déjà avantagé ou déjà nuit dans ta carrière?
Les deux, mais premièrement, merci.
Non, c'est vrai, mais je veux dire, Léa, c'est une belle femme, on le dit vrai.
Mais sincèrement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses des travers de Marie-Pierre Morin que je comprends, parce que moi-même, j'ai vu dans ma propre vie, je l'ai vu, ce privilège-là.
Okay.
Bien sûr que je l'ai vu, puis tu l'apprends depuis que tu es petite. Les filles qui sont considérées belles, tu penses pas qu'on passe leur vie à leur dire? Moi, je le vois avec ma petite qui a 6 ans, qui a des cheveux cuivrés extraordinaires. Les gens nous arrêtent dans la rue. Mais ça, à un moment donné, ça te rentre dans la tête. Puis soit t'as ce sentiment d'être entière, t'as confiance en toi, puis t'es saine, ta relation envers toi-même est saine parce qu'elle est pas basée seulement sur les apparences, ou bien tu tombes dans une espèce de trou sans fin de tu as besoin de cette approbation de manière constante. Et Marie-Pierre, elle en a parlé. Puis je la crois. Si tu si t'as besoin absolument de séduire et d'être valorisé, et que toi, au fond de toi, tu taillis, puis que tu mélanges ça à l'alcool, c'est sûr que t'as un cocktail Molotov. C'est sûr.
Ouais.
Mais est-ce que ça m'a nuit ou ça m'a avantagé? Dans ma carrière, je te dirais que je suis arrivée assez tard. Peut-être que j'avais plus le pouvoir de 22 ans. Disons.
OK. Mais tantôt, tu faisais référence à ta fille, donc, tu sais, qui est très belle, qui se le fait dire. Est-ce que c'est la même chose pour toi? À l'époque, est-ce qu'on te le disait? Tu l'as vécu, ça?
Constamment.
Ah oui?
Je l'ai remarqué tôt. Okay. Rapidement, puis moi, je te dirais que ça... Ce qui m'a nui là-dedans, c'est que c'est devenu une obsession. C'est-à-dire que il y avait un décalage entre mon amour propre et ce que les gens me disaient, justement.
Te renvoyaient. Puis même, je te pose la question, en te renvoyant ça ce matin, en te disant moi-même à quel point tu es une très belle femme, ça vient-tu encore... Est-ce que je suis venue te chercher encore ce matin en te le disant?
Je veux dire, je préfère quand on me dit que je suis belle que je suis belle, comme tout
j'espère.
Le monde.
Okay.
Mais je suis rendue vraiment ailleurs. Là,
d'accord.
Parce que mon amour propre, il est vraiment pas basé là-dessus.
Okay.
Puis aussi, ma carrière est pas faite là-dessus. Mais c'est un piège, parce que tu vois, là, je vais avoir 40 ans l'année prochaine.
Oui.
Puis, sincèrement, si t'as basé toute ta vie sur la beauté, là, à un moment donné, cette affaire-là, ça fane, là, on s'entend, la jolie fleur, elle est un peu plus flétrie avec le temps, tu sais. Mais là, ça t'inquiète. Là, tu t'injectes des affaires d'en face. Là, ça fait peur, tu sais.
Ouais.
C'est pour ça que tu peux pas baser ton identité là-dessus. Tu peux pas. Faut que tu le bases sur autre chose.
Ouais, très intéressant. Voilà. Léa, vraiment, je te remercie de cette ouverture et d'ouvrir cette conversation-là. C'est très précieux ce que tu fais ce matin et tu sous-estimes l'impact de propos comme celui-là. Je suis très contente qu'on ait la conversation ensemble. Hey, en terminant, je m'en vais complètement ailleurs parce que je me suis fait... Il y a des auditeurs ce matin qui disaient « Catherine, calme-toi. Moi, je pense qu'on s'est trouvé un sauveur à Montréal qui s'appelle Cole Caulfield et tu partages la même passion que moi. »
Je peux t'en parler 2 heures. Sérieux, tu peux annuler toutes les autres entrevues,
okay,
annuler tout le reste de l'émission. On se parle de Cole Caulfield. Je veux dire, moi, j'ai commencé à regarder le hockey en pandémie parce que ça me faisait du bien et qu'on n'a rien à faire.
Ouais.
Et sincèrement, je pense que ce petit gars-là sous-estime l'effet qu'il y a sur le Québec en ce moment. Qui en marque juste 2 de toute sa carrière des buts. Il a fait les 2 dont on avait besoin. C'est non, mais tu sais, de voir un gars de 19-20 ans heureux de jouer au hockey comme un chien qui arrive au parc à chiens et qui est content de voir ses amis. Je veux dire, ça nous fait, là, on a besoin de ça. Il comprend pas comment on en a besoin. Je suis tellement heureux.
Mais voilà, c'est ce que j'ai dit parce que les auditeurs, Catherine, il a marqué 2 buts en prolongation à 3-3. Calme-toi. Oui, mais il nous fait vibrer. Non, non. Puis on vibre pour rien ces temps-ci. On peut-tu?
Hey, c'est la seule fleur du printemps. On peut-tu, s'il vous plaît?
OK. On se la laisse. Merci, Léa. Merci, à la semaine prochaine.
À bientôt.
Bye-bye. Léa Streliski. Très, très pertinent ce qu'elle nous amène ce matin.